Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
De retour des JMJ de Panama en réponse à la question d'un journaliste demandant si ces dernières avaient répondu à ses attentes, le pape François a eu cette réponse. Évidemment, le thermomètre pour voir si un voyage a répondu aux attentes est la fatigue. Et je suis épuisé. À 82 ans, le pape François ne ménage pas sa peine. Pour tenir le cap de la barque de pierre après les tempêtes et ouragans de l'année 2018 qui ont assailli cette dernière selon les mots mêmes du pape. Un cap qui se veut être une lumière pour le monde, comme lors de son tout récent voyage aux Émirats Arabes Unis, où en plein monde musulman, le pape a rien moins que plaidé pour une liberté religieuse. L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'un de nos rendez-vous mensuels, avec fidèle au poste Nicolas Senez, journaliste pour le quotidien La Croix et correspondant de ce même journal à Rome. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Nicolas, puisque vous êtes rentré hier donc des Émirats Arabes Unis. Probablement que ça n'a pas échappé à certains. Le pape François était là-bas pour une rencontre interreligieuse. Voyage rapide de 2 jours, si je ne me trompe pas. Et est tombé, semble-t-il, dans la nuit, une déclaration commune historique du pape François et du grand imam de l'université Al-Azhar, qui est donc, on va dire, un des hauts lieux de l'islam sunnite. Déclaration, document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune qui pourrait bien faire date. Peut-être pouvez-vous commencer par nous parler de ce texte, Nicolas.
Oui, donc c'est un texte qui était, nous a dit le pape dans l'avion, préparé de longue date, qui a eu beaucoup d'allers-retours entre le grand imam d'Al-Azhar et lui, pour arriver donc à ce texte, à cette déclaration commune, qui tranche quand même avec un certain nombre de déclarations qu'on peut avoir de l'islam, qui insiste effectivement sur cette question, alors pas de la liberté religieuse, mais de beaucoup plus de tolérance, dans l'expression des religions, qui parle finalement aussi de la liberté de culte pour les chrétiens dans les pays musulmans et pour les musulmans dans les pays occidentaux, qui parle du refus absolu de toute violence religieuse. Ça, c'est quelque chose de très important, de la protection des lieux de culte. Donc voilà, il y a vraiment les fruits et les avancées du dialogue qu'il peut y avoir, en tout cas avec certaines parties de l'islam, ce qui correspond à la stratégie de François dans son dialogue avec l'islam et dans son dialogue en général, qui est de dire moi je discute avec tous ceux qui refusent la violence pour isoler finalement les violents au sein de leur propre religion, faire une espèce de cordon sanitaire au sein de ceux qui utilisent le nom de Dieu pour la violence.
Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, en effet c'est une déclaration qui fait donc 4-5 pages. On y retrouve des expressions du pape François, puisque donc cette déclaration conjointe de sa sainteté le grand imam d'Al-Azhar et donc du pape François, de sa sainteté le pape François et du grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, parle de la troisième guerre mondiale par morceaux. Il y a cette déclaration à propos de la paix. La religion n'incite jamais à la guerre. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions, mais aussi des interprétations de groupes d'hommes de religion qui ont abusé de l'influence du sentiment religieux sur le cœur des hommes. Il y a quand même une mention, Nicolas Senez, sur la liberté de croyance. J'aimerais que vous nous mettiez en perspective ce point, puisqu'à la fin du document, il y a un certain nombre de points qui sont sériés comme étant les points les plus importants. Le deuxième, après la paix, c'est « La liberté est un droit de toute personne. Chacun jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. » Liberté de croyance de la part du grand imam de l'université d'Al-Azhar. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective une telle déclaration?
Ce qu'on peut dire, c'est que il y a cette liberté de croyance, il y a ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, certains pourraient regretter qu'il n'y a pas, par exemple, la liberté de ne pas croire, mais c'est vrai que dans le monde musulman, la question de l'athéisme est encore extrêmement tabou. Il n'y a pas non plus, en tout cas pas de façon explicite, la liberté de changer de religion. qui est aussi une question difficile dans les rapports islamo-chrétiens. Donc on voit, hein, c'est ce que disait le pape, hein, c'est un processus. Faut noter les avancées. Il y a encore des difficultés, mais voilà, il y a encore des points sur lesquels on peut progresser. Mais ce qui ressortait, hein, des discussions qu'on pouvait avoir là-bas avec les uns et les autres.
Donc là-bas, c'était aux Émirats Arabes Unis. Hein.
Aux Émirats Arabes Unis, pardon, oui, avec des responsables musulmans ou des gens engagés dans le dialogue islamo-chrétien qui est de dire aujourd'hui même l'islam est confronté aussi à une crise interne, en particulier dans sa jeunesse, où le nombre, par exemple, de jeunes qui refusent l'islam à cause de ses dérives, dans les jeunesses des pays arabes en particulier, des jeunes qui se déclarent athées. Et cette montée de l'athéisme inquiète beaucoup dans le monde musulman. Et d'une certaine façon, c'est bénéfique au dialogue islamo-chrétien parce que les musulmans se rendent compte que discuter avec les chrétiens, finalement, c'est quelque chose de... Mieux vaut les chrétiens que les athées, d'une certaine façon. Et donc, le statut des chrétiens est réévalué à cette aune-là, en ce sens que les chrétiens, eux au moins, ils sont croyants, ils croient en quelque chose, et c'est donc des gens avec qui on peut discuter sur un pied d'égalité. Moi, j'étais très frappé par les chrétiens qu'on a rencontrés aux Émirats Arabes Unis, donc qui jouissent quand même d'une assez grande liberté de culte, alors à condition que ce culte se fasse dans leurs églises, qui n'ont pas de signes particulièrement ostensibles, que ce sont des églises.
Pas de cloche et pas de croix sur les églises, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, quand on discutait avec les gens, ils disent « Est-ce que c'est difficile de construire une église aux Émirats ?» Ils disent « Non, il faut avoir un permis de construire, mais c'est pas tellement plus difficile d'avoir un permis de construire pour une église aux Émirats que pour avoir un permis de construire pour une mosquée en France. » Et je crois que le signe, par exemple, de cette messe que le pape a célébrée, donc devant finalement 180 000 personnes dans et surtout autour du stade, parce que tous les chrétiens qui étaient venus pour rencontrer le pape au cours de cette messe étaient trop nombreux pour pouvoir rentrer dans le stade. Donc le pape a fait aussi le tour du stade en papamobile, qui était pavoisé aux couleurs du Vatican. Il y avait dans le stade une grande croix sur l'autel. Enfin, et tout ça, c'était public dans cette terre qui est à 300 km de l'Arabie Saoudite, qui est juste en face de l'Iran. Donc là, il y a eu aussi une visibilité du culte chrétien qui semblait impossible il y a seulement quelques années. Donc là aussi, il y a eu cette volonté des Émirats Arabes Unis d'accepter clairement cette manifestation très extérieure du culte chrétien et qui a été acceptée par l'islam sur place. Et moi, je prenais l'exemple. Je disais, est-ce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on accepterait une grande prière musulmane au Stade de France, 80 000 personnes, plus 50 000 autres dehors sur les parkings?
Il y a quand même des réunions au Bourget. Il y a quand même des réunions au Bourget chaque année, si je peux me permettre.
Oui, imaginez au Stade de France, hein, le Stade de France plein de musulmans, les parkings autour, 180 000 fidèles musulmans en train de faire la prière. Je pense qu'en France, ça ne passerait pas.
Alors Nicolas Salez, juste quelques éléments sur les Émirats Arabes Unis, parce que vous étiez dedans, une fédération donc de 7 Émirats situés dans le Golfe Persique. C'est un pays donc il y a une certaine liberté religieuse, vous l'avez dit. Néanmoins, on ne peut pas changer de religion. L'apostasie de l'islam qui est passible de peine de mort, même si semble-t-il ça n'arrive pas très souvent. Et puis j'ai vu entre autres aussi un décret présidentiel qui interdit tout acte qui attise la haine religieuse. Donc une certaine liberté religieuse. C'est un pays aussi riche, il faut le rappeler, hein. C'est l'équivalent du PIB de la France pour un pays d'un peu plus de 9 millions d'habitants. Le pape François est allé là-bas donc pour parler de liberté religieuse, pour parler de la paix, invitant à bannir toute nuance d'approbation du mot « guerre », rendons-le à sa misérable cruauté, disiez-vous en commençant l'un de vos articles. On n'est pas loin du Yémen, où une coalition de pays du monde arabe est en guerre contre... monde musulman, est en guerre, dont les Émirats Arabes Unis. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie du voyage?
Oui, il en a parlé. Il en a parlé à ses hôtes, en tout cas en privé. Il a aussi cité dans son discours, justement, tout à la fin de son discours sur le dialogue interreligieux, justement, en disant qu'il faut dans le refus de la guerre, il a cité un ensemble de pays du Moyen-Orient, au sens large, touchés par la guerre, et il a commencé par le Yémen, ce qui était quand même assez courageux de sa part, devant lui, justement, les principaux responsables des Émirats Arabes Unis, donc qui sont engagés dans la guerre au Yémen. Amnesty International a accusé spécifiquement les Émirats Arabes Unis de crimes de guerre sur place. Donc voilà, le fait de citer le Yémen était quand même quelque chose d'important. Voilà, ensuite, il faut... Voilà, il y a une coalition effectivement sur place avec les différents États. Il y a l'Arabie Saoudite qui mène vraiment une guerre religieuse contre les chiites. Il semblerait que du côté des Émirats, on soit plus sur une guerre, on va dire, commerciale, économique, et le contrôle des ports, en particulier du grand port d'Aden, qui est à l'entrée de la mer Rouge. Donc, on disait, les Émirats sont un pays riche, c'est un pays de commerçants, et qui ont à cœur de contrôler effectivement ces routes maritimes du commerce dans la région. Donc voilà, il y a des éléments, on va dire, religieux, idéologiques. Il y a aussi des éléments beaucoup plus terre-à-terre et économiques dans cette guerre.
J'imagine qu'on retrouvera quelques papiers, ou au moins un papier aujourd'hui encore dans le journal La Croix, sur cette déclaration donc commune du pape François et du grand imam d'Al-Azhar, qui fait suite donc à son voyage aux Émirats Arabes Unis. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la conférence de presse qu'a donnée le pape François, comme il est de coutume, semble-t-il, dans l'avion au retour des JMJ de Panama. J'ai noté, je le cite, parce que j'ai trouvé qu'on y voyait là bien la grande liberté du pape François. À la fin, le pape François a voulu s'adresser aux journalistes et leur faire une remarque personnelle. Il a dit la chose suivante: les Panaméens, ils soulèvent leurs enfants et ils disent « Voilà ma victoire, voilà mon avenir, voilà ma fierté. Dans l'hiver démographique que nous vivons en Europe, en Italie sous zéro, cela doit nous faire réfléchir. Quelle est ma fierté? Le tourisme, la villa, le petit chien ou soulever un enfant? Merci, priez pour moi », a dit le pape François. Voilà, ça ça valait le coup de le noter, mais on avait convenu d'aborder la question du mariage des prêtres. C'est une question qui a été posée par Caroline Pigozzi, journaliste donc à Paris Match. Quelle a été, s'il vous plaît, Nicolas, la teneur de la réponse du pape François sur ce sujet?
Alors, ce n'est pas une question sur le mariage des prêtres. Là, je pense que c'est le sujet où il faut... C'est la question d'ordination d'hommes mariés, hein, ce qui est quelque chose de très différent. François a fait une réponse extrêmement intéressante, puisqu'il a commencé par dire que pour lui, selon son opinion personnelle, il ne se sentait pas en droit de revenir sur cette discipline de l'Église catholique, qui était la question de l'ordination, que l'Église catholique ordonnait des hommes célibataires, sauf quelques rares exceptions. Mais pour lui, voilà, il a rappelé, hein, le célibat est un don fait à l'Église. Et moi, je ne me sens pas, a-t-il dit, de paraître devant Dieu en ayant remis ça en cause. Donc ça, c'était... Alors, en même temps, voilà, il a dit... Et en même temps, il n'a pas fermé le débat. C'est-à-dire qu'on peut noter quand même une évolution par rapport, par exemple, à Jean-Paul II, pour qui c'était quasiment dogmatique. C'est-à-dire, on ne touche pas à ça, et il était quasiment impossible pour les théologiens de parler de ce sujet-là sans se faire crosser par Rome. François, il dit non. Il dit, moi, voilà, pour moi, c'est pas possible, mais les théologiens doivent en discuter.
Alors ça, il a beaucoup cité un théologien qui s'appelle le père Lobinger, c'est ça?
Voilà, Monseigneur Lobinger.
Est-ce que vous pouvez...
Qui est depuis devenu évêque et qui a évoqué la possibilité, dans un livre, alors non pas d'ordonner des prêtres, mais de confier... certaines parties en fait du ministère de prêtre, et il est rentré dans des questions assez fines, hein, il y a trois fonctions du prêtre quand il est ordonné, celle de gouverner, celle d'annoncer et celle de sanctifier. Et ben, peut-être qu'on peut dans certains lieux, il a donné l'exemple des îles du Pacifique où le prêtre ne peut pas venir très régulièrement, de confier à un ancien, alors presbytre, hein, en grec, qui a donné le mot prêtre, mais voilà, un ancien marié éventuellement, la possibilité de célébrer la messe, de confesser et de donner l'onction des malades. Mais voilà, qui est en dehors du gouvernement, on dit, voilà, ça c'est une piste qui peut être explorée. Mais voilà, il nous l'a dit, attention, moi, voilà, c'est une piste qui peut être explorée, mais c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment prié pour le décider de façon définitive. Mais voilà, c'est quelque chose qui, c'est une idée qui peut être explorée. Voilà.
Voilà, le pape François qui aussi, au début donc, de cette question, en effet, donc, sur l'ordination d'hommes mariés, a cité Paul VI, « Je préfère donner ma vie plutôt que de changer la loi du célibat ». Est-ce qu'il y a un dernier point, je vois qu'il nous reste 2 minutes, Nicolas Senez, que vous voudriez souligner à propos de cette conférence de presse dans l'avion de retour des Journées mondiales de la jeunesse? On y a parlé entre autres avortement, je ne sais pas quel serait l'autre point que vous avez retenu.
Il y a dans l'autre conférence de presse, celle qui nous a donnée hier, donc de retour cette fois-ci des Émirats, où il y a eu une question hors de la question du dialogue interreligieux qui était sur la question des abus sur les religieuses. Il y a eu un long article dans le supplément féminin d'Osservatore Romano qui dénonçait cette question donc des religieuses abusées sexuellement par des prêtres en particulier. Et le pape a reconnu que c'était un véritable problème, que des prêtres et même des évêques avaient pu abuser de religieuses.
Alors excusez-moi, juste, qu'est-ce que ça veut dire un véritable problème? Parce que ça veut dire que ça existe et que c'est terrible, ou
ça veut dire que
c'est parfois...
Voilà, que nous, dans la Croix, on a pu raconter, effectivement, que dans certains continents comme l'Afrique, ou bien peut-être en Inde aussi, c'était très largement répandu. Voilà, donc il a expliqué de façon assez claire qu'il avait la véritable volonté d'avancer là-dessus. Il a dit, on peut faire plus, j'ai la volonté d'avancer et de trouver des solutions. La question en particulier, c'est la question de la dénonciation des prêtres ou des évêques qui ont commis ces abus dans des congrégations religieuses qui sont souvent des congrégations diocésaines, c'est-à-dire qui dépendent de l'évêque, et donc c'est extrêmement compliqué pour les victimes d'obtenir justice. Donc c'est là aujourd'hui le nœud du problème. Il voit bien que il y a des choses qui coincent parce que la victime n'a pas accès à la justice élémentaire.
Eh ben merci beaucoup Nicolas Senez. Rendez-vous donné donc pour le mois prochain. Un grand merci à vous. On fait une première pause musicale et puis on retrouve Philippe Dazébrun pour continuer ce parcours de la vie de l'Église dans le monde. On va parler entre autres du Venezuela et des Philippines, deux situations politiques bien difficiles où l'Église joue un rôle clé. Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec au début de cette émission, était avec nous Nicolas Senez, journaliste pour le quotidien La Croix, correspondant de ce journal à Rome, qui était de retour donc des Émirats Arabes Unis, où le pape François était en voyage ces derniers jours. Et avec nous aussi Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. On s'envole à nouveau, cette fois pour les Philippines, où l'Église joue un rôle presque d'opposant, enfin d'opposant politique même. Et la dernière actualité, c'est que le 27 janvier, dans la cathédrale de Jolo, Notre-Dame du Mont-Carmel a eu lieu un attentat qui a fait 18 morts. Donc dans cette île du sud du Pacifique, deux kamikazes, et voilà, terrible drame qui vient dans un contexte politique particulier. Philippe Dazébrun, expliquez-nous.
Oui, particulier parce que ces attentats interviennent après un référendum qui a eu lieu le 21 janvier, référendum qui avait pour objet de donner l'autonomie au sud du pays, qui est largement musulman, dans un pays qui est très majoritairement
80%
catholique. Oui. Absolument. 90% de chrétiens. Hein.
Ce qui est une exception presque
dans le panorama local, oui. Et donc nous avons un référendum qui a eu lieu, 85% des électeurs ont voté en faveur de l'autonomie, après des décennies d'attentats. De guérillas séparatistes menées par les musulmans. Et là, c'est un groupe islamique qui est à l'origine de cet attentat. Pourquoi Jolo ? Parce que c'est la seule île qui se soit prononcée contre le projet d'autonomie. Dans un endroit où les chrétiens sont relativement minoritaires, et des chrétiens qui avaient plutôt été inquiets par cette autonomie, en dépit du soutien au référendum de la hiérarchie catholique. C'est-à-dire les évêques avaient très largement soutenu le projet d'autonomie, parce qu'ils considéraient qu'il y avait là un nœud qu'il fallait dénouer, c'est-à-dire il fallait renouer le dialogue. Du reste, il le faisait assez régulièrement, localement. Il rencontrait très, très régulièrement les responsables musulmans du sud du pays. Et il pensait que cette autonomie accordée à ces îles pouvait pacifier la vie des habitants du sud des Philippines.
Ça, c'est donc le contexte. Alors, le président de contexte de cet attentat, le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a condamné fermement ces attentats en disant que les criminels seraient poursuivis jusqu'à ce qu'on les trouve et qu'ils finissent en prison. Ce n'est pas le ton habituel de Rodrigo Duterte à l'égard de l'Église catholique. On va en parler un petit peu. Cet homme donc a été investi le 3 juin 2016, menant une campagne extrêmement, on va dire, ferme, populiste. Entre autres citations, j'ai retenu celle-là: « Oubliez les droits de l'homme, si je deviens président, ça va saigner », sont un de ses grands thèmes de campagne, et donc de mener la guerre aux trafiquants de drogue sur l'île. S'en est suivi, depuis son élection, la multiplication de meurtres. La police semble avoir les pleins pouvoirs, et l'Église s'inquiète vivement d'une dérive autoritaire de ce dernier, parce que les meurtres ne finissent par concerner plus seulement les trafiquants de drogue. Déjà, ces meurtres sont sujets à interrogation, hein, mais aussi des opposants politiques, des maires et autres. Beaucoup de choses à dire, hein, sur ce Rodrigo Duterte. C'est vrai que quand on le découvre, c'est un personnage assez sidérant, vu de la France.
Oui, c'est un personnage totalement maléfique, je dirais même, parce que on voit bien tout le travers là de ce que peuvent apporter les populismes grâce à la démocratie, avec des slogans tout à fait simplistes, n'est-ce pas ? Je vous rappelle quand même qu'il a été élu sur le slogan d'abattre jusqu'à 100 000 trafiquants et toxicomanes. Trafiquants et toxicomanes. Donc les deux sans sommation. On a quelquefois des groupes armés qui, en toute impunité, tuent sans qu'il y ait de poursuite judiciaire à leur encontre.
Et souvent dans les quartiers les plus pauvres, oui. où beaucoup sont touchés par la drogue.
Bien évidemment. Et dans ce climat d'insécurité, on va jusqu'à traquer tout et n'importe quoi qui peut s'opposer désormais au pouvoir qui est en place. Il y a des témoignages qui, lorsqu'ils sont lus, nous sidèrent complètement, parce que bien évidemment, cet homme s'entoure de personnes qui vont dans son sens et avec lesquelles il n'y a pas de dialogue possible. C'est-à-dire qu'on est dans le règne de la violence absolue. C'est en ça que je pense que c'est un personnage totalement maléfique. Qui, du reste, prend la Bible comme cible. Il a des propos blasphématoires qui sont assez sidérants sur l'histoire d'Adam et Ève, sur l'idée du péché originel. Et il a même déclaré « Votre Dieu n'est pas mon Dieu, puisque votre Dieu est stupide », en parlant des chrétiens. Et il a même appelé au meurtre des évêques, parce qu'il y a là, effectivement, une force d'opposition qu'il lui faut réduire.
À propos des évêques, je peux seulement dire que les évêques sont des fils de c'est vrai, la plupart d'entre eux sont des homosexuels, ils devraient faire leur coming out, abroger le célibat et se permettre d'avoir un petit ami. Ce sont par ailleurs des imbéciles, ils sont inutiles, c'est un tas de merde, c'est quand même lui qui le dit. Ils sont remplis d'hypocrisie, etc., etc., etc. Donc il y a eu plus de 4000 personnes qui ont été tuées. Donc ce règne arbitraire, enfin de la violence tellement arbitraire, les ONG disent que il faudrait presque multiplier par 5, ça fait déjà quand même 20 000 personnes. J'ai vu une vidéo d'un prêtre qui dit que ce pays est devenu un pays de ténèbres, les légions de Satan sont à l'œuvre, la corruption et l'injustice frappent ce pays, et alors l'Église résiste de manière admirable. Des manifestations pacifiques avec des parapluies blancs, j'ai vu ça. L'Église est le principal opposant politique de ce président devenu presque un dictateur.
Oui, alors c'est vrai que historiquement l'Église a toujours joué un rôle, n'est-ce pas, dans la vie politique de ce pays. Elle a été pour beaucoup dans la fin de Ferdinand Marcos en 1986. Elle a joué un rôle dans la disparition du dictateur des années 2000 en 2001 qui s'appelait Joseph Estrada. Donc Duterte voit bien qu'il y a là, je dirais, une force d'opposition qui lui est qui peut lui être nocive et qui peut le renverser. Si bien que dans l'outrance qui est la sienne, il grossit le trait et appelle, comme je l'ai dit, au meurtre, parce qu'il y a effectivement une résistance qui est à la fois, je dirais, active et aussi, je dirais, symbolique. Symbolique parce que nous avons vu il y a quelques mois un appel à jeûner pendant 3 jours. En signe de résistance à l'oppression, jeûne, prière et aumône. Bon. On a vu aussi des évêques prendre la parole qui était une critique en creux de la politique du président philippin, à savoir qu'au lieu de s'attaquer à des toxicomanes ou à des trafiquants de drogue, il serait beaucoup plus intéressant de vraiment s'attaquer au nœud, c'est-à-dire au cœur du problème, c'est-à-dire le chômage, la corruption et la violence qui traversent le pays. Et ceci, ce sont des propos qui ont été tenus par l'archevêque de Manille, qui était une forme de critique du gouvernement. Et puis, il y en a d'autres qui sont, je dirais, beaucoup plus, je dirais, virulents, comme Monseigneur Pablo David, sur lequel je reviendrai plus tard, qui a condamné la façon dont parlait le président Duterte, et un autre, qui est évêque de Sorsogon, qui l'a traité de psychopathe et donc est allé au-delà du discours, je dirais, plutôt pas lénifiant, mais en tout cas plus pacifique que l'on a entendu jusqu'ici.
Moi, j'ai noté Mgr Vallès qui invitait la population à aimer et à protéger leur foi, mais à choisir la paix.
Mgr Vallès qui a été élu récemment président de la conférence des évêques de Philippins. C'est pas anodin parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu les foudres de Duterte et qui, d'autre part, est originaire de la ville du président philippin. Mais pour en revenir à Mgr Pablo David, en 2017, le 15 août exactement, on a vu un jeune lycéen qui s'appelait Kian de los Santos qui a été assassiné. Il était agenouillé devant les policiers, sans armes. Visiblement, ce n'était pas quelqu'un qui trafiquait, ce n'était pas un toxicomane, et qui a été descendu par la police sans aucune espèce de raison. Eh bien, depuis lors, depuis ce drame affreux, l'évêque, Mgr David, fait sonner le glas dans son diocèse tous les soirs à 20h pendant 10 minutes. Voilà un type de résistance. Hein. Et il sait, c'est quelqu'un qui change de lieu de résidence régulièrement, il sait qu'il est une cible potentielle, et nous savons qu'il n'y a aucune résistance de la part de ces groupes armés à tuer des religieux, des prêtres. Il y a un pasteur qui a été tué en décembre 2017, il y a un prêtre qui a été tué pendant les jours qui ont suivi parce qu'ils étaient considérés comme des opposants au régime.
Voilà, j'allais dire ça fait du bien. Je ne sais pas si la remarque est de circonstance, mais c'est sûr que de voyager loin de la France, ça met quand même en perspective certaines de nos réalités. Dernière saillie de ce président Duterte des Philippines que je voudrais citer, il a promis qu'il démissionnerait si on lui donnait des preuves de l'existence de Dieu et si quelqu'un faisait un selfie avec le Créateur. Je rappelle qu'il est quand même président d'un État de 110 millions, 120 ou 130 millions d'habitants. On va maintenant aller sur un autre continent, le Venezuela. Autre situation politique extrêmement difficile et tendue, puisque au Venezuela, pour rappel, donc depuis 2013, ayant pris la suite d'Hugo Chavez, il y a un président qui est aussi devenu un dictateur, Nicolas Maduro, président classé à l'extrême gauche. Et récemment, le 23 janvier dernier, s'est levé un opposant politique, Juan Guaido, président en exercice, qui s'est proclamé président en exercice du Venezuela. Cet homme est le président de l'Assemblée nationale de ce pays qui est donc devenu une dictature, comme je l'ai dit, et puis qui souffre d'une situation économique épouvantable. Un seul chiffre, 10 millions d'inflation en 2019. 10 millions d'inflation en 2019, c'est ce qui est prévu. Bref, pays absolument ruiné. Et là aussi, l'Église est active. Je commencerai peut-être juste par une citation, alors on pourra en dire davantage sur la situation politique. Le pape François a été interrogé justement au retour du Panama, lors de cette conférence de presse dont parlait tout à l'heure Nicolas Sonez. Il a eu une réponse assez pondérée. Il a dit quand même qu'il était terrifié par la possible violence et il redoutait un bain de sang sur place. « Je souffre de ce qui se passe au Venezuela ». Oui. Philippe d'Azébrun.
Oui. Alors, la situation, je dirais, au Venezuela, vis-à-vis de l'Église, est un peu, je dirais, ambivalente. Parce qu'on a la situation de l'Église locale et la parole du Saint-Siège. Au niveau local, il y a, comme vous l'avez dit, et c'est très juste, un bastion de résistance. C'est évident, aussi dans le caractère matériel des choses que dans la condamnation morale. Là, je crois qu'il y a une parfaite unanimité de la part de l'épiscopat vénézuélien pour condamner la politique qui est menée. De dictature d'une part et puis de spoliation parce que c'est, vous avez cité les taux d'inflation mais le salaire minimum est de 15 euros, 15 à 16 euros, hein.
87% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté,
absolument, et qui cherche à se nourrir dans les poubelles, n'est-ce pas, de Caracas et autres. Donc on a une église locale qui vient en aide matérielle tant qu'elle le peut à cette population et qui apporte une parole de condamnation tout en essayant, je dirais, de renouer un dialogue. Mais on voit bien que le dialogue n'est pas possible. Alors que, au niveau du Saint-Siège, et ça n'a pas été compris, le 25 décembre, le pape a mentionné dans son discours le Venezuela et a parlé qu'il fallait aboutir à un temps qui débouche sur la concorde de toutes les composantes sociales du pays. Ça n'a pas été compris. Ça n'a pas été compris, de même que l'envoi par le Saint-Siège d'un représentant du Vatican à la cérémonie d'investiture, on dira, du président Maduro, donc il y a quelques mois. Ça, c'est quelque chose qui a dû être éclairci par notamment le nonce apostolique, en précisant qu'il n'y était pas allé lui, qu'il avait envoyé simplement un secrétaire de la nonciature, et si bien que les chrétiens sur place ont diffusé une caricature du pape qui le montrait avec un sous-titre, le Ponce Pilate du XXIe siècle, qui le montrait en train de se laver les mains dans un bénitier qui avait la forme et les couleurs du Venezuela. Donc vous voyez, là il y a, je dirais, une forme de double.
Mais mettez en perspective, voilà, peut-être ce qui peut apparaître comme un double discours.
Absolument. Et finalement, l'Église locale qui est aux prises des réalités matérielles du lieu est peut-être plus soutenue que la voix du pape qui paraît lointaine et peut-être en décalage par rapport aux réalités politiques et sociales du pays.
Maintenant, on imagine que le pape François, quand même, pour aller au bout de votre réflexion, a ses raisons de ne pas prendre position publiquement.
Sans doute. En tout cas, il est à la tête d'une diplomatie.
Sur les Vénézuéliens, si on continue, peut-être peut-on donner quand même quelques éléments récents de la situation politique. Les choses seraient peut-être en train de basculer. Un certain Francisco Yarez, qui est général de l'armée de l'air, a dit qu'il ne reconnaissait pas l'autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et a appelé les forces armées à reconnaître Juan Guaido, donc nouveau président d'exercice du Venezuela, reconnu par une vingtaine de pays dans le monde. Une aide humanitaire aussi se presse aux portes du pays. Ce même président autoproclamé espère que l'armée ne fera pas barrage à la venue de cette aide humanitaire et que cela signera le début d'un renversement d'un régime qui a déjà fait de nombreux morts et met à genoux toute une population. On fait une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve pour parler de l'Afrique.
فامنح المغلوب ما
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec une musique qui nous emmène en Orient. Si cela vous a surpris, je vous rappelle que c'est que le pape François était aux Émirats Arabes Unis jusqu'à hier pour un voyage, donc dans ce pays modéré du monde musulman, où, entre autres, à l'issue de ce voyage, a été publiée une déclaration commune historique du pape François et du grand imam de l'université Al-Azhar. Tout ça à retrouver, entre autres, dans le journal La Croix, puisque nous sommes pour cette émission chaque mois avec Nicolas Senès, journaliste pour ce quotidien et correspondant à Rome, et Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Dans cette dernière partie d'émission, Philippe Dazébrun s'était dit qu'on irait en Afrique. Plusieurs actualités différentes, mais peut-être une même remarque. Peut-on commencer par le Togo, où doivent se tenir prochainement des élections, où se sont tenues, pardon, des élections législatives. C'était en décembre dernier, et là aussi l'Église est intervenue dans la situation politique du pays. Expliquez-nous en quelques mots ce qui se passe.
Oui, je mettrai en relation du reste cette situation au Togo avec celle du Congo dont on a parlé il y a quelques semaines et celle du Sénégal. Vous vous souvenez qu'au Congo, il y a eu des élections République démocratique du Congo, je le rappelle, qui ont donné lieu à l'élection d'un personnage qui a été contesté. Par l'Église, qui avait eu des experts dans les bureaux de vote du pays. Il y avait 40 000 personnes comme ça disséminées à travers le pays pour juger de la validité des élections. Et là, nous voyons qu'au Togo, les élections ont eu lieu, comme vous l'avez dit, il y a peu de temps. Et le scrutin a été boycotté très largement parce que l'opposition ne voulait pas participer à ce scrutin, élection législative, je le rappelle. Et pour autant, il y a eu, d'après ce que dit le gouvernement, un taux de participation extraordinaire et, bien évidemment, le parti du gouvernement qui l'a emporté très largement, près de 60 sièges sur 91 à pourvoir. Et que voit-on ? On voit l'archevêque émérite de Lomé qui prend la parole pour s'étonner de ces résultats. et pour dénoncer finalement des irrégularités dans le cadre de ces élections. Rappelant le rôle, qu'il dit d'ailleurs louable et admirable, qu'a joué la conférence épiscopale du Congo à l'occasion des élections dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on voit bien, n'est-ce pas, le rôle que l'Église joue dans un cadre politique qui est de respecter les règles démocratiques. Et on voit la même chose d'ailleurs dans le cas du Sénégal, puisque au Sénégal...
Prochaines élections présidentielles, le 24 février prochain.
Le 24 février, une élection présidentielle. Il y a eu, une décision, une loi qui a été votée, qui est la loi sur les parrainages, qui nous en rappelle peut-être d'autres en France dans les années 50. Et celle-là demande que tous les candidats à l'élection présidentielle soient soutenus par... au moins 65 000 signatures de personnes inscrites sur les listes électorales. Ce qui élimine de facto tout un tas de candidats qui étaient en fait des opposants. Et je crois qu'il y a 27 candidats, et sur les 27 candidatures, il y en a 22 qui ont été comme ça éliminés. Donc l'Église sénégalaise a recommandé, ce sont ses propres termes, la vigilance vis-à-vis du gouvernement, pour préserver la paix dans le pays. Donc on voit bien là une parole d'Église, et du reste, l'Église sénégalaise a rebondi sur, vous vous souvenez, la journée mondiale de la paix et le message du pape qui appelait, je le rappelle, la bonne politique au service de la paix.
Message du 1er janvier de chaque année. Vous vouliez souligner deux autres situations politiques, et puis surtout, il y avait peut-être une pique à l'adresse d'une partie du monde intellectuel français, deux situations, donc c'est au Zimbabwe et au Burkina Faso, où l'Église joue aussi un rôle important. Le contexte est un petit peu différent, puisque ce sont soit des affrontements communautaires pour le Burkina Faso, soit au Zimbabwe une contestation de la population. Rappelez-nous la situation et dites-nous quelle serait votre adresse à l'égard du monde intellectuel français.
Oui, il y a quelques semaines, quelques jours en fait, au Zimbabwe, il y a eu des manifestations assez violentes contre la hausse du prix du carburant. Ça rappelle quelque chose ici en France, mais qui ont fait une dizaine de morts. Par la répression de la police, une dizaine de morts, quelques 820 arrestations, sans parler d'un nombre de blessés assez conséquent. Et il se trouve que les victimes de ces répressions se rendaient dans les églises ou dans les hôpitaux gérés par l'Église. Et là, on voit bien, n'est-ce pas, quel est le rôle de l'Église dans cette situation, c'est-à-dire le rôle de l'apaisement, en quelque sorte, des maux dont souffre l'Afrique, des maux sociaux, des maux, je dirais, physiques de l'Afrique. Et donc, on a bien là un rôle qui est celui de la paix dans le sens à la fois matériel et aussi... spirituel.
Au Zimbabwe.
Et au Burkina Faso, lutte interethnique, comme vous l'avez dit, et où l'Église a demandé à ce que le gouvernement intervienne afin que les Peuls et les Mossi qui sont en train de s'entretuer dans certains endroits du pays interviennent pour que la paix règne. Donc on voit bien que...
Affrontements qui ont explosé donc le 31 décembre à la fin de l'année 2018.
Oui, 49 morts d'un côté, des milliers de blessés. Enfin, c'est quelque chose dont on ne parle pas en fait dans l'actualité française, mais qui est le quotidien de ce continent que l'on oublie très largement. Et je crois que à travers tout ce qu'on a dit ce matin, il y a peut-être un regard qui peut changer à l'égard de l'Église. Parce qu'on voit bien que cette Église qui est le fruit largement de la suspicion de certains intellectuels français qui la regardent avec des lunettes du 19e siècle. Cette Église, partout dans le monde, œuvre pour la paix, œuvre pour l'apaisement de toutes les souffrances et pour faire en sorte que les règles démocratiques soient respectées au nom d'un principe élémentaire du salut de l'homme en tant que fils de Dieu.
Et toujours de manière pacifique. Ça vaut le coup aussi de le souligner. Au Venezuela comme aux Philippines, quelle que soit en fait l'extrême violence de la situation, les appels à manifestation et à résistance sont toujours pacifiques.
Toujours.
Merci beaucoup Philippe Dazébrun d'être venu au micro de Vivante Église pour voilà ce voyage aux quatre coins de la planète de quoi je sais que beaucoup d'auditeurs prient peut-être de quoi quelques intentions de prière. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.